Dans l'épisode d'aujourd'hui sur Droit Devant, nous parlons de l'amour au travail, sujet récurrent d'interrogation chez les internautes. Il y a quelques semaines de cela, on y a d'ailleurs consacré une infographie à l'occasion de la Saint-Valentin. Et on s'est aperçu à cette occasion que le sujet générait beaucoup de questions. On a donc décidé d'y consacrer un podcast. C'est vrai qu'au désespoir parfois de certains employeurs, eh bien l'entreprise est un lieu propice à la rencontre amoureuse. Selon un sondage du cabinet de recrutement PageGroup, 26% des salariés ont envisagé d'avoir une relation au travail, 62% ont déjà franchi le pas et 38% déclarent qu'ils sont actuellement en couple avec une personne rencontrée au travail. Mais dans quelle mesure le droit va pouvoir s'immiscer dans l'intimité des rapports sociaux ? Alors c'est vrai qu'il n'y a aucune trace du terme « amour » dans le Code du travail. Et nous allons voir dans cet épisode que la vie sentimentale des salariés, leur intimité, est effectivement protégée par les textes, mais que cette protection connaît malgré tout des limites. C'est vrai que l'art de séduire, ça mêle une multitude d'attitudes ou de comportements qui relèvent généralement de la vie personnelle des collaborateurs et qui échappent au contrôle de l'employeur. Par principe, l'employeur ne peut pas prendre en compte, dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique, des éléments qui relèvent de la vie personnelle des salariés. La vie sentimentale des salariés est en effet protégée, que ce soit par le Code civil, qui pose le principe selon lequel chacun a droit au respect de sa vie privée, mais aussi par le Code du travail, qui prévoit que les libertés des personnes ne peuvent être restreintes sans une justification objective, sans que la nature de la tâche à accomplir le justifie. Et puis, le Code du travail prévoit évidemment aussi une interdiction de discrimination en raison des mœurs, en raison de son orientation sexuelle quand on est salarié, en raison de sa situation de famille. Donc, on a un cadre législatif qui pose une protection du salarié. Et en application de ces textes, eh bien, la jurisprudence est venue dégager un certain nombre de solutions. Par exemple, elle indique à l'employeur qu'il ne peut pas interdire les relations amoureuses entre salariés par une clause du contrat de travail ou dans un règlement intérieur. C'est ce qu'a rappelé la Chambre sociale dans des arrêts du 7 février 68 et du 10 juin 82. La Chambre sociale est également venue rappeler qu'un salarié qui entretiendrait une relation avec un collègue ou avec un supérieur hiérarchique ne peut pas être licencié pour ce seul motif. Ou encore qu'une salariée ne peut pas être licenciée en raison de la liaison qu'elle entretient avec son supérieur hiérarchique au prétexte d'éviter, par exemple, un éventuel scandale. Ce motif n'est pas un motif valable de licenciement. Donc voilà le principe. Maintenant, comme souvent en droit, il existe des exceptions. Alors pourquoi ? Parce que l'union de deux personnes sur le lieu de travail va pouvoir soulever un grand nombre de questionnements. Des questionnements liés, par exemple, au favoritisme, à des représailles, à une forme d'intimidation, d'humiliation. Et l'employeur peut craindre d'être mis en difficulté dans l'exercice des obligations qui lui incombent. Par exemple, l'employeur peut craindre de voir sa responsabilité engagée par un des salariés, qui nourrirait une forme de déconvenue. Ou l'employeur peut aussi craindre des démissions, peut craindre un risque réputationnel ou une forme de dégradation de l'image de l'entreprise. Donc, à ce titre, la vie sentimentale des salariés va pouvoir être limitée. Elle va pouvoir être limitée parce que d'abord, certains actes s'avèrent inappropriés et peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou de sanctions disciplinaires. C'est par exemple le cas des agressions sexuelles ou encore des violences. Et dans ce contexte, on sait bien qu'en matière de harcèlement, l'employeur va évidemment devoir agir en cas de révélation ou de signalement de situations difficiles, litigieuses. Il va devoir avoir des actions de prévention en amont d'un acte ou d'un agissement illicite. Il va devoir s'opposer à la survenance de comportements déviants. Et cette obligation de prévention qui pèse sur l'employeur, elle va évidemment profondément bouleverser son rôle parce qu'il ne va pas pouvoir détourner le regard de ses situations interpersonnelles dans l'entreprise. Et il va devoir prendre une part finalement active dans la recherche de la protection des salariés. Donc il ne peut pas concrètement se contenter de fermer les yeux sur des relations en les considérant comme strictement personnelles et non professionnelles. Donc il est question ici de sujets liés au harcèlement, dans le cas duquel l'employeur va agir, Mais sans aller jusqu'au harcèlement, il existe parfois des comportements qui sont inappropriés. Et la jurisprudence est venue donner des précisions sur la manière de réagir de l'employeur. Par exemple, pour deux salariés qui travaillaient dans le même, pour la même entreprise, l'homme, qui avait des fonctions de direction, avait, dans une espèce dont il est question, un arrêt qu'a rendu la Chambre sociale, il avait pris pour habitude d'intervenir systématiquement dans les décisions qui étaient prises par l'entreprise à l'égard de sa compagne. Et lorsqu'il les considérait comme injustifiées, il se rebellait contre ces décisions et il intervenait directement auprès de la société, auprès de l'employeur. Et donc, la société, dans ce contexte, a prononcé son licenciement. La Cour de cassation est venue dire que le licenciement était justifié parce qu'en fait, ce salarié, qui avait donc des fonctions de direction, se rebellait de façon injustifiée systématiquement contre les décisions de l'employeur à l'égard de sa compagne, alors même que ce sujet ne le regardait pas. Donc, dans ce contexte où un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise a été relevé par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le licenciement du salarié a été considéré comme fondé. Un autre exemple du trouble objectif qui peut intervenir, c'est effectivement quand on a des salariés qui sont dans la même entreprise, qui entretiennent une liaison. En arrêt du 9 juillet 2022, on avait un exemple d'une relation sentimentale qui existait sur le lieu de travail et il se trouve que à plusieurs reprises des altercations ont eu lieu entre les membres du couple et que ces altercations ont entraîné l'arrestation. La concubine a appelé les services de l'ordre et qui ont les services de police qui ont arrêté sur le lieu de travail son concubin. Et donc l'employeur a licencié le concubin pour trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise. Licenciement que la Chambre sociale de la Cour de cassation a validé en considérant qu'effectivement l'employeur pouvait craindre la survenance de nouveaux incidents et que finalement le théâtre de l'entreprise n'était pas le lieu pour de telles scènes de ménage et que finalement le licenciement prononcé était fondé. Encore un autre arrêt récent où on voit l'incidence des comportements privés dans la sphère professionnelle. Il s'agissait, 13 avril 2023, d'un entraîneur d'un club de football amateur qui a été condamné pour agression sexuelle sur mineur et qui s'est absenté un temps avant de reprendre ses fonctions. Et lorsqu'il a été réintégré dans l'entreprise, il se trouve que les salariés, donc ses anciens collègues de travail, ont lancé un mouvement de grève pour manifester leur désaccord avec la réintégration dans l'entreprise de ce salarié condamné pour agression sexuelle. Et donc, le climat social s'en est trouvé considérablement dégradé, ce qui caractérisait un trouble objectif et qui a permis à l'employeur de fonder son licenciement et à la Chambre sociale de confirmer la validité de ce licenciement. Sur le sujet du harcèlement sexuel qu'on a évoqué tout à l'heure, donc effectivement, comme on disait un peu avant, tous les comportements qui s'apparentent à du harcèlement sexuel sont évidemment proscrits et n'ont pas leur place au sein de l'entreprise. Mais on a un certain nombre d'arrêts qui viennent qualifier ce que c'est que le harcèlement sexuel en entreprise. Parce qu'on peut parfois s'interroger sur les actes qui rentrent dans la qualification du harcèlement sexuel ou pas. C'est vrai que les textes disent que le harcèlement sexuel, ce sont des propos, des comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui portent atteinte à la dignité en raison du caractère dégradant ou humiliant. Et on a un arrêt qui est assez éclairant sur ce que peut être le harcèlement sexuel. Il s'agissait pour un salarié qui avait une certaine ancienneté dans l'entreprise et qui, de façon régulière, face à une jeune recrue, une jeune salariée qui venait d'intégrer la société, lui adressait de longs courriels avec des propositions, des déclarations, lui indiquant qu'il souhaitait la rencontrer seule au bureau, lui adressant des invitations qu'elle refusait systématiquement, lui faisant livrer des bouquets de fleurs. Et donc, il y avait une insistance, en fait, insistance qui était malvenue, dans le sens où les deux salariés avaient une grande différence d'âge, d'ancienneté aussi, de situation professionnelle, avec un salarié plus ancien qui avait une qualification professionnelle plus élevée. Et tous ces éléments auraient dû l'inciter, cet auteur de harcèlement, à plus de mesures, à plus de réserves face à cette jeune femme nouvellement embauchée. Donc c'est un arrêt du 28 janvier 2014 qui a qualifié le harcèlement sexuel et qui a permis à l'employeur de fonder un licenciement. Donc évidemment, le consentement, la notion de consentement est essentielle dans l'entreprise où vit la séduction. Donc tout est véritablement une question de limite, vous l'aurez compris. La liberté et la vie privée des salariés qui sont protégés en principe ne sont toutefois pas absolues. C'est ainsi que se termine cet épisode sur l'amour au travail. J'espère qu'il vous a été utile. Je vous invite à nous laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur l'application iTunes qui nous aide à faire connaître encore plus largement ce podcast. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Droit Devant.